Bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, on va interviewer Madame Abad et Monsieur Waliski pour la semaine des langues. Alors on va vous poser quelques questions sur vos langues respectives. Et voilà. Et à Maëlle aussi. Vous avez raison, j'ai encore oublié à Maëlle. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer les origines de vos langues un petit peu ?
Je te laisse commencer.
Alors, bonjour à tous. Je vais vous parler de l'espagnol. L'origine de la langue, on va dire que ça se passe plutôt au 1er siècle, 2e siècle, hein, pendant l'Empire romain. Voilà, là, c'est une langue romane, l'espagnol. Et au fur et à mesure des années et de l'histoire, elle s'est transformée en castellan, puisqu'on nous, on dit l'espagnol, mais c'est el castellano, donc le castellan du centre de l'Espagne, Castilla-La Mancha, et c'est devenu le castellan, l'espagnol actuel que vous apprenez au collège, au lycée.
Alors, et de mon côté, donc pour le japonais, donc c'est la langue bon, elle, qui était du pays du Japon. Alors, c'est à peu près la même période, hein, 1er siècle. Donc, ça vient de la colonisation chinoise. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de liens à la base avec le langage chinois qui petit à petit évoluera vers le langage insulaire japonais. Donc, Nihongo, la langue du Japon. Et donc, au début, il n'y a pas beaucoup de différences puisqu'il n'y a qu'une seule île qui est vraiment dominée par les Japonais, donc Honshu. Puis petit à petit, en ayant de plus en plus d'archipels et d'îles, vous allez avoir beaucoup d'accents qui vont se développer dans la langue japonaise, puisque le Japon a vraiment énormément d'îles dans le Pacifique, donc il y a autant de différences au niveau des intonations. Mais après, donc, la langue, c'est Nihongo, la langue du Japon.
D'accord.
D'accord.
Ensuite, pour vous, quelles sont les différentes utilisations dans la société ? De la langue dans la société ?
Mis à part pour communiquer. Les gens parlent cette langue, c'est exactement, ils en font la même utilisation que nous le français. Hein. Donc dans la vie de tous les jours, quand vous écrivez un papier, les gens, ils écrivent tout en japonais, c'est leur langue. Après, à l'international, c'est sûr que le japonais, par rapport à ma collègue d'espagnol, bah, mis à part au Japon, ça parle beaucoup japonais. C'est une langue qui est vraiment pour le pays du Japon. Mais bon...
Oui, pour l'espagnol, on est bien positionné puisqu'on est 500 millions de hispanohablantes, donc qui parlent espagnol dans le monde. Donc c'est aujourd'hui, il me semble, depuis 2024, la seconde langue la plus parlée au monde. Après, pour l'écriture, bah, c'est comme l'a dit mon collègue, hein, pour communiquer, transmettre des informations. Voilà, il y a quelques mots... dans notre langue française qui sont empruntées de l'espagnol. Notamment, si vous allez voir un match de foot, quand on fait la ola, ça vient de l'espagnol, puisque ça veut dire la vague. En fait, la ola, c'est bah, la forme de la vague. Donc voilà, il y a quelques mots empruntés de l'espagnol, mais ça reste pour communiquer.
Après, c'est vrai que pour les mots qui viennent du japonais, bah, mis à part les termes japonais, manga, etc., bon, ça vient du Japon, c'est les mots japonais. Mais il faut savoir que les Japonais empruntent beaucoup plus de mots à notre langue que nous, on emprunte à la leur, notamment dans la cuisine ou la mode.
Par exemple, le mot restaurant en japonais qui est tout droit tiré du français. Ça se voit, c'est du plagiat complet.
Ah, restaurant. Pas de problème. Oui. La mode, robu.
Oui.
Ils prennent tout de chez nous. Même, vous voulez un steak bien cuit, bah, ils vont dire steak, et puis bien cuit. Voilà, c'est bien du français.
D'accord.
Et Amel, t'as un truc à rajouter, toi ?
Bah, c'est que ça prenne pas que... les Japonais ne prennent pas des mots que du français, aussi de l'anglais, comme computer, par exemple.
Alors, et aussi, dans le vocabulaire religieux, ils prennent des mots de l'espagnol et du portugais, parce qu'ils ont été très influencés par les missionnaires. Mmh. Voilà.
D'accord. Alors, petite question de culture générale. D'après vous, quelles sont les trois langues les plus parlées au monde ?
Alors moi, j'en ai déjà cité une, oui. Hein ? C'est la deuxième.
Alors, quand on parle de parler, c'est réparti dans le monde ou par nombre de locuteurs ?
Par nombre de locuteurs.
Par nombre de locuteurs.
Oh, bah, tu dois avoir le chinois et l'hindi qui sont bien positionnés.
Chinois, première langue.
Ouais, anglais ou hindi, parce que les anglais, indiens sont nombreux aussi. Hein.
Oui. Mmh. Et espagnol, ça doit être dans le top 3, ouais, hein, ouais. Forcément.
Alors, en effet, en troisième position, on a l'anglais avec 360 millions. l'espagnol avec 400, 500 millions.
Oui, presque 500, il me semble, aujourd'hui.
Et le chinois mandarin avec 1 milliard.
Oui, voilà.
Alors, on est encore loin, on est encore loin.
On parle tout chinois en même temps.
Hein. Il y en a beaucoup, dis donc.
Beaucoup, beaucoup.
Oui. Alors, avant de se quitter, une dernière question. Est-ce que, d'après vous, l'écriture a un lien avec les langues vivantes?
Alors, je peux parler de l'exemple.
Vas-y.
Pour le japonais, donc, vous avez toute la manière d'écrire. Donc, vous avez deux alphabets phonétiques, les hiragana, les katagana, qui sont notre alphabet, hein, si je peux dire des sons. Puis vous avez tous les idéogrammes qui viennent du chinois, ce qu'on appelle les kanji. Et donc, les kanji, à la base, bah, c'est illustrer la vie de manière simple. C'est un petit peu comme les dessins que faisaient les hommes préhistoriques. Du coup, là, vous avez vraiment un lien fort avec bah, la langue et la manière de l'écrire. Bon, alors c'est vrai que maintenant c'est tellement simplifié qu'on voit plus vraiment toujours le lien avec certains kanji et la réalité. Mais par exemple, vous prenez Yama, c'est une représentation d'une chaîne montagneuse, simplifiée, mais on le voit pour la montagne. Pareil pour la rivière Kawa, vous avez trois traits, on dirait vraiment une rivière avec l'eau qui coule. C'est très simplifié, mais là vous avez vraiment un lien concret. Ça c'est pour les kanji. Alors après, pour les langues occidentales, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais...
Alors nous, pour l'espagnol, la petite particularité qu'on a sur l'écriture, notamment de l'alphabet, c'est qu'on a trois nouvelles lettres par rapport à notre alphabet français. Le N avec l'accent au-dessus, la tilde, qui fait le son nye, le double L qui fait le son ye, et la dernière lettre, le ch, le ch. Hein. Et l'apparition de ces lettres change voilà, par rapport à notre alphabet français. Et la petite particularité, je dirais, de l'espagnol, c'est qu'il est très facile à utiliser et à écrire. Voilà, les élèves le remarquent dès la cinquième. C'est une langue qui s'écrit comme elle se prononce. Bon, à part quelques irrégularités, mais globalement, si vous n'avez jamais fait l'espagnol, vous entendez l'espagnol, vous pouvez écrire en espagnol.
Alors, avec le japonais, c'est pareil pour l'alphabet phonétique, mais les kanji, c'est vraiment très compliqué. Et il faut savoir que le japonais, normalement, ça s'écrit de haut en bas et de droite à gauche. Donc, c'est vraiment particulier par rapport... Maintenant, ils écrivent beaucoup comme les occidentaux, hein, de gauche à droite. Mais normalement, ils écrivent verticalement. Si vous regardez les documents historiques, c'est écrit verticalement. Voilà. Alors, la raison, moi, je la connais pas, pour le coup. Mmh. Mais...
Ça doit pas être facile, le japonais.
Oui.
Bah, vas-y.
La question.
Je pense que oui, comme M. Wolski l'a dit, le japonais, c'est facile à parler parce que c'est pas comme le français. Je veux dire, il n'y a pas d'exception dans les exceptions des exceptions. Ça, c'est facile. Par exemple, avec les chiffres, c'est facile. Les jours, il y a une exception avec le dimanche, il me semble. Mm. Et voilà, comme le français. Mais à part ça... Finalement, le plus compliqué, ce serait surtout de l'écrire parce qu'il faut réussir à retenir par cœur les traits, les ordres des traits, les significations en chinois, en japonais, il me semble.
Oui, c'est pas la même. Et puis c'est pas la même prononciation, même s'il y a des liens, parce que les japonais, ils ont deux lectures des kanji, la lecture chinoise et la lecture japonaise. C'est la onyomi et la kunyomi. C'est une manière de lire. Et alors, autre chose, du coup, par rapport à une langue latine, donc on est à côté, c'est qu'en japonais, alors, vous avez du mal à l'écrire, mais alors le parler, tout ce qui est grammaire, c'est super facile. Hein. Il y a deux temps, vous n'avez pas pluriel.
Non, mais l'espagnol, c'est très facile. Hein.
J'ai pas dit que c'était compliqué, mais c'est par rapport à une langue latine, le français, l'espagnol, etc. Le japonais, à côté, vous n'avez rien en termes de grammaire. Hein. C'est extrêmement simple. Hein. Ça ressemble beaucoup au latin dans la construction des phrases, d'ailleurs, puisque vous avez des petites prépositions qui vous indiquent ce que fait chaque mot. Mais
Tout vient toujours du latin. On a toujours
un... Là, le lien serait plutôt le sanskrit, du coup. Mais oui.
C'est sûr que chaque langue, on a l'impression qu'elle a une petite partie latine.
En fait, il y a une origine commune, c'est la langue du sanskrit.
Tout et n'importe quoi.
Ouais.
Vas-y.
Il y a un dernier truc que je veux dire en rapport avec les kanji, c'est que les kanji, déjà, c'est compliqué à écrire parce qu'il faut retenir tous les trucs et les machins, mais surtout, il y en a un peu plus de 4000.
Oui, il faut en connaître 4000 ou 8000 pour vraiment lire un petit peu, enfin faire tout au quotidien. Quoi. Vous avez des niveaux qu'il faut comme ça passer. Donc voilà.
Comment ils font pour tous les retenir ?
Eh ben, ils font comme vous, normalement, avec les tables de multiplication. Ils les écrivent. Et puis, en fait, dans leur parcours scolaire, petit à petit, comme ça, ils en acquièrent. Régulièrement, ils font des tests pour savoir s'ils savent les lire, les écrire. Puis après, c'est facile, entre guillemets, pour eux de l'apprendre. Parce qu'ils le voient partout, dans les rues, dans les journaux, sur Internet, ils le voient. Donc, à terme, ils finissent par l'apprendre. Mais c'est sûr que ça leur prend un peu plus de temps.
C'est la pratique de la langue, ça c'est comme pour toutes les langues, la pratique au quotidien, à l'école, à la maison, la pratique de la langue fait qu'on arrive à avoir plus de mots, plus de vocabulaire, plus de grammaire, ça vaut pour toutes les langues.
Et si on regarde, nous, on a du mal à apprendre les kanji, etc. Mais les Japonais, quand on leur demande d'apprendre le français, mais ils sont en galère. Hein. Vous n'imaginez pas les conjugaisons, qui sont plus ou moins naturelles pour nous, mais eux, c'est un enfer. Hein.
Puis les exceptions des exceptions.
Ah oui, oui, oui. On leur introduit une règle, là, mais il y a telle exception, puis il y a telle exception, exception. Terminé. Ils n'en peuvent plus, les Japonais.
Il y a aussi.
Puis les prononciations, elles sont très dures pour eux. Nous, par rapport aux Chinois, le japonais, ça se prononce, c'est plat. Hein. Le français, pour prononcer pour un étranger, les sons en R, en on, ils sont en galère. Hein.
Well.
Il me semblait que c'était avec la phrase un bon vin blanc.
Ah oui.
Pour eux, ils entendent tout le temps la même syllabe.
Bah, si vous leur dire un bon vin blanc, déjà, ils n'entendent pas la différence dans les sons nasaux, puis ils vont faire le même son à chaque fois. Hein. Aucun problème. Hein. Le R, c'est très difficile à faire pour eux. Bon, en vérité, le R, il est difficile à faire pour tout le monde. Mais sauf peut-être pour les Espagnols, parce qu'ils ont un R un peu proche. Pour rouler, là.
Oui, la R.
Voilà.
Et le mot vert en français, c'est pareil, c'est difficile. Si vous mettez le mot vert dans une phrase, nous en espagnol, le mot vert peut être traduit de quatre manières différentes, alors que nous en français, c'est vert. Donc ça aussi, c'est
l'animal,
difficile.
La couleur, l'objet. Oui.
Ouais.
C'est des fois plus simple dans les autres langues, mais elles ont aussi leurs petites exceptions.
Oui,
toujours une exception. C'est
pourquoi? C'est comme pour la comme pour le vert, comme a dit Madame Adal.
Abad.
Pardon. C'est le japonais aussi, par exemple, avec l'un des mots que je connais le mieux, entre guillemets, le mot kami, ça peut dire cheveux, le papier, la feuille de papier et Dieu.
Et les dieux, ouais.
Oui, ce sera un peu bizarre d'arriver chez le coiffeur et de dire je veux couper Dieu. Comment ça,
ça sera... Je veux couper le papier, c'est bizarre aussi.
Oui.
Chez le coiffeur, au moins, tu trouves une paire de ciseaux. Comme ça, si t'as pas de paire de ciseaux, tu peux couper du papier.
Voilà.
Logique.
Ça reste difficile pour les dieux.
Oui.
Allez.
Voilà.
Eh bien, merci d'être venu. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou on s'arrête là?
Merci de nous avoir
invités. Merci à vous, oui. Merci pour cette invitation.
Eh bien, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.